Pauline Pucciano présente Titania 3.0. Musique originale de Anthony L. Avec l'aimable autorisation des éditions Magnard. Chapitre 1. Rencontre. Jean relut son titre, les images dans la vie quotidienne à l'ère prénumérique, et quitta l'université virtuelle en quelques clics. Il venait de terminer une session de recherche pour son mémoire et se sentait un peu fatigué. La plongée dans les archives du XXe siècle l'avait emporté bien loin du moment présent, et il songea que cela intéresserait sûrement sa mère de savoir qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, des pionniers de la photographie avaient fixé des appareils argentiques sur des cerfs-volants et même sur des pigeons voyageurs. Puis, avec cette brusquerie cinglante du deuil, il se rappela que sa mère était morte et que ce qui les avait intéressés tous les deux, ce qui avait nourri leur complicité et leur conversation, n'intéressait plus que lui. Elle était partie 2 mois plus tôt, d'une « mort subite de l'adulte », avait dit l'officier de médecine légale. Elle avait laissé là, simplement, sans avoir le temps de lui dire au revoir. Au quotidien, sa disparition n'avait pas totalement bouleversé son existence, car sa mère avait coutume de s'absenter régulièrement, et Jean, du haut de ses 19 ans, était habitué à la solitude. Mais l'idée de son retour le rassurait, le guidait, quand vivre dans son absence perpétuelle lui paraissait à certains moments presque impossible. Ce mémoire qu'il avait quelque peu laissé de côté cette dernière année était devenu pour lui une sorte de preuve d'amour qu'il destinait à son fantôme. Ne l'avait-elle pas toujours poussé à poursuivre des études fondamentales, à fuir les sciences appliquées, à chercher le sens de l'histoire? Le XXIIe siècle est une aberration historique, disait-elle toujours. Ne cherche pas de réponse ici et maintenant. Depuis sa mort, il s'attelait à cette tâche avec toute la ferveur filiale qu'il éprouvait et qu'il avait l'impression de ne pas avoir assez exprimée. Certes, il avait été obligé de prendre un travail pour se payer un appartement, un simple emploi de technicien dans une unité de production alimentaire. Mais le cœur de son existence était ailleurs, auprès de cette mère morte dont les engouements et les brusques colères lui manquaient, dans ces époques révolues qui l'avaient toujours fasciné. Tout ce qu'il aimait, personne et lieu, semblait évanoui, et il se sentait bien souvent lui-même comme un intrus dans le temps présent. Écrire, enfiler des perles de mots, en faire des bijoux, inutiles et scintillants, était devenu pour lui comme une sorte de drogue. Il ne quitta pas le réseau tout de suite et se rendit sur son mur personnel, où il trouva toutes ses applications familières. Sans considération pour l'heure qu'il était, ni pour le lieu où il se trouvait dans Paris, détail qui lui paraissait de peu d'importance, il chercha à nommer le vide qui refusait de se fermer en lui et commença à écrire. Dans les pâles halos de soleil numérique, je cherche l'invisible en qui le ciel s'écoule. Je vois le monstre humain qui vaguement s'enroule autour de son absence en anneaux concentriques. Ma douleur étranglée, oubliée, se morfond en un repli de l'âme aux profondeurs internes, et je porte au dehors un sourire si terne que mon cœur transparent au réseau se confond. Jean effaça le mot transparent qu'il remplaça par transpercé et se relut. Ma douleur étranglée, oubliée, se morfond en un repli de l'âme aux profondeurs internes, et je porte au dehors un sourire si terne que mon cœur transpercé au réseau se confond. Moi, je préfère transparent, dit une voix inattendue derrière lui. Jean sursauta. Il débrancha son réseau vecteur et ouvrit les yeux sur le monde réel. Il était toujours à la même place depuis plus de 3 heures, assis sur le rebord de la fontaine Stravinsky, en face de l'identitemple. La même foule bariolée et hétéroclite se pressait là, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Il mettait toujours quelques fractions de seconde à réintégrer la réalité. Il s'oublia un instant à observer les gens, et la voix le rappela à l'ordre. « Vous vous faites vieux, remarqua-t-elle, vous mettez un temps infini à retomber sur terre. » Il se retourna vivement, avec irritation. La créature qui lui parlait ne paraissait pas avoir plus d'une 20aine d'années. Peut-être 15, peut-être 50, qui pouvait le dire. L'âge restait une manière de décrire les gens, comme la longueur de leurs cheveux ou leur couleur de peau. Cela pouvait changer d'un jour à l'autre, mais il fallait bien se raccrocher à quelque chose. Elle était très « art », comme on disait, ce qui signifiait plus ou moins qu'elle était un produit artistique sophistiqué et harmonieux. Il ne prêta pas attention aux détails de sa personne, mais la vision d'ensemble lui plut. Une vapeur de cheveux blancs, de grands yeux mauves, une bouche de poupée, de la soie. « Quel âge avez-vous ? » demanda-t-elle, avec une moue exagérée. « 200 ans ? Mais de quoi vous mêlez-vous » répliqua-t-il. « Vous êtes bizarre, dit-elle, et j'aime tout ce qui est bizarre. Pourquoi donc me trouvez-vous bizarre ? Vous n'êtes pas modifié. Et alors ? C'est bizarre. Et d'abord, comment savez-vous que je ne le suis pas ?» Elle prit une inspiration et changea d'expression, devenant soudain sérieuse, comme si le sujet était son domaine de prédilection et de compétence. Les gens qui se modifient mal, comme 99% des gens que vous voyez autour de vous, n'ont aucune unité. Ils sont un assemblage pathétique d'éléments disparates. Ils ne ressemblent à rien. Les gens qui se modifient correctement parviennent à se donner cette unité. C'est ceux qu'on qualifie d'art. Mais vous, vous n'êtes ni art ni modifié. Vous avez l'unité que vous a donnée la nature. Ça se remarque tout de suite. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas art dans le style naturel ? Vous pourriez... Mais qui aurait choisi ce petit bouton poilu sous votre menton et la très légère asymétrie de vos yeux ? Qui aurait opté pour cette rougeur sur l'aile droite du nez ?
Je ne sais pas, moi.
Il chercha des yeux autour d'eux un spécimen assez atypique pour appuyer son discours. Une jolie jeune femme, dotée d'une paire d'ailes de libellules vibrantes et transparentes, bavardait avec une autre entièrement recouverte d'un pelage tigré. « Qui opterait pour une peau de tigre ?» demanda Jean. « Vous n'avez pas choisi tous ces petits détails. Vous les avez reçus à la grande loterie et vous avez juste décidé de les garder. »« D'accord. Vous marquez un point, Miss Hart. Titania. La reine des fées de Shakespeare, hein ? Je le porte depuis 2 ans. Il ne vous plaît pas ?
Il vous va bien, dit-il. Et vous ?
Jean.
Juste Jean.
Oui. » Et celui-là, ce n'est pas la nature qui me l'a donné, c'est ma mère.
Oh !
Jean repensa brusquement à son poème et à l'intrusion de cette indiscrète jeune femme. Vous savez qu'il est très malvenu d'intervenir dans les activités d'un inconnu. Vous savez qu'il est très imprudent d'écrire des chansons dans un lieu où le réseau est totalement ouvert. C'est comme si vous l'écriviez au mur.
Ce n'est pas une chanson.
Alors c'est quoi ? Un poème ? Ça fait 200 ans qu'on n'écrit plus de poèmes en alexandrin. Mais moi je suis bizarre. Et naturel, et j'ai gardé le prénom que m'a donné ma mère. D'ailleurs, vous m'avez donné 200 ans, tout correspond. » Elle se tut un instant et le considéra avec attention. Il ne put s'empêcher de remarquer d'autres détails. Ses ongles de nacre, sa peau légèrement saupoudrée d'infimes paillettes, son cou laiteux et velouté, caressé par des plumes. « Dans les pâles halos de soleil numérique, je cherche l'invisible en qui le ciel s'écoule. » Je vois le monstre humain qui vaguement s'enroule autour de son absence en anneau concentrique. « C'est beau, » dit-elle. Elle alla ajouter quelque chose, mais son Hervé, entièrement personnalisé, recouvert en partie d'écailles et en partie d'une sorte de coquillage, se mit à émettre un son grave comme celui d'une antique flûte de Pan. « J'aimerais vous revoir, Jean, » déclara-t-elle. « Je reviendrai demain. » Elle lui adressa un petit sourire incertain, puis brancha son Hervé sur ses oreilles et s'éloigna dans la foule. Il la suivit des yeux, jusqu'à sa disparition, piqué au vif. Il ne s'agissait pas seulement de sa beauté, il devinait en elle une solitude presque égale à la sienne. Il hésita à se reconnecter et décida de se laisser simplement aller au spectacle de la cohue. « Regarde le monde, » répétait sa mère, « tous les jours, regarde le monde d'un œil neuf. » Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et les rouvrit lentement, après avoir compté 3 coups, comme si ses paupières étaient un rideau de théâtre. La fontaine Stravinsky, malgré son mouvement perpétuel, était presque le point le plus fixe du décor. Ses automates colorés, qui paraissaient des marionnettes de papier mâché échappées d'un âge lointain d'innocence, accomplissaient des mouvements amples et gracieux, tandis que les esthétibos, au chrome et au cuivre rutilant, s'élevaient dans les airs afin de répandre l'eau en cascades interminables. Leur manège était fascinant, car la forme des jets d'eau variait sans cesse, comme un kaléidoscope liquide, et il dut se concentrer pour détourner les yeux et les lever vers la vieille église Saint-Merry, dont tout le monde semblait avoir oublié le nom, et dont les vitraux anciens s'animaient depuis quelques années de projections holographiques intégrées. Le mouvement des automates, celui des vitraux animés, celui de la foule frissonnante, lui donnait une sorte de vertige. Il se détourna donc et se dirigea vers l'identi-temple, qui ouvrait, dans les locaux de l'ancien musée du centre Georges Pompidou, les gigantesques portes de ses entrailles babyloniennes.
Il ne s'agissait pas d'un temple à proprement parler. Il y avait bien longtemps que les religions instituées avaient été abandonnées. Mais d'une légendaire galerie commerciale où l'on vendait absolument tous les articles et services consacrés à la création personnelle. Jean s'arrêta un moment à l'étage de l'entrée principale et consulta l'un des innombrables plans qui défilaient sur toutes les surfaces verticales du complexe. On y vendait des vêtements rares et carnavalesques, en fourrure, en plume, en écaille, en dentelle, en plastique, en métal, en synthétique, des vêtements automatiques qui effectuaient des mouvements, des vêtements lumineux, des vêtements parfumés, des vêtements interactifs avec des parties parlantes, des vêtements d'autres époques, d'autres lieux, des vêtements délirants sortis de l'imagination de stylistes psychotiques, des vêtements de torture, des vêtements licencieux, des vêtements de nains, de géants. Jean descendit d'un niveau par une plateforme flottante et se mit à observer l'infinie diversité des accessoires exposés plus bas. Des couvre-ailes, des cache-queues, des couvre-chefs troués pour les cornes, des ongles, des cheveux, des lentilles, des bijoux pour toutes les parties du corps, pour les lèvres, les épaules, les doigts, le sexe, la langue, les narines. Des bijoux vivants composés de scarabées ou d'araignées parasites, énormes et colorés. Des bijoux comestibles, des bijoux stupéfiants, des bijoux fumants, liquides, odorants, des onguents pour colorer la peau, la rajeunir, la vieillir, la tanner, l'huiler, la parfumer, la durcir et la transformer en carapace, des fixations de toutes tailles et de toutes sortes, des poches de poignets, des étuis pour Hervé. Il eut l'impression, au détour d'une vitrine surélevée, d'apercevoir cette jeune fille qu'il venait de rencontrer, Titania, chargée de paquets, en train de monter d'un niveau grâce à une plateforme lointaine. Elle regardait très loin devant elle, comme si elle poursuivait un but inaccessible, et cela lui plut. En essayant vainement de la suivre, il parvint au quatrième étage, qu'on appelait la pharmacie, où se vendaient des pilules d'une grande variété de formes, de couleurs et de fonctions. Il avait besoin de somnifères et chercha le rayon un certain temps, parmi les comprimés pour changer l'humeur, pour modifier le métabolisme ou le doper, pour assouplir les articulations, pour bloquer la sudation, pour déclencher des larmes perpétuelles. Il finit par trouver ses pilules de contrôle du sommeil et en acheta une douzaine. Comme Titania n'était nulle part, il supposa qu'elle était montée encore plus haut, dans les étages supérieurs, ceux des services particulièrement onéreux, les tatoueurs et autres artistes coiffeurs, coloristes, pelistes, les services chirurgicaux permettant de mettre et de retirer une multitude d'implants. Membres supplémentaires, cornes, chevelures et pelages, ailes, queues, bijoux biologiques, crocs, griffes. Enfin, la chirurgie esthétique, de la plus basique à la plus spectaculaire, qui vous permettait de perdre 10 ans, de changer de nez, d'oreille, de menton, de dents, d'étirer les os des jambes, de perdre des kilos de graisse et même de changer de sexe. Il resta un long moment à guetter. Il crut la voir se matérialiser et s'évanouir plusieurs fois, dans des miroirs ou derrière des vitres, blanche et vaporeuse comme un fantôme. Il la chercha ensuite de haut en bas jusque dans les étages inférieurs, surnommés l'enfer, qui exposaient les produits les plus délirants de l'industrie du sexe. Jouets de toutes sortes pour toutes les orientations imaginables, implants d'organes érogènes supplémentaires, pharmacopées aphrodisiaques. Plus bas encore s'ouvraient les couloirs de la mort, où l'on trouvait des armes à perte de vue, et surtout des armes implantées, lames de rasoir et griffes rétractiles, crocs à venin, armes de jet miniaturisées pour les avant-bras, rayons aveuglants, doigts électrisants, lance-flammes intégrées. L'imagination humaine, en enfer, n'avait aucune limite. Et à tous les étages, la même foule, dense, compacte, chamarrée, protéiforme, qui semblait avoir absorbé toute trace de Titania. Jean oscillait entre fascination et répulsion, mais il suspendait son jugement, le réservant pour plus tard, pour une heure d'intimité propice à l'exercice de la pensée. Il était venu pour se remplir les yeux du monde, et il n'en perdrait pas une miette. Quand tout l'étonnement dont il était capable fut consommé, quand il eut perdu tout espoir de retrouver sa fée et qu'il commença à déambuler sans curiosité, il décida de partir. Il rentra chez lui directement, en passant par la rue des Martyrs. Il dut enjamber des hors-réseaux qui dormaient par terre, et l'un d'entre eux s'agita à son passage. « Hé, Jean ! Qu'est-ce qu'il y a, Mito ? T'aurais pas quelque chose à manger ? Là, sur moi ? Non, désolé. Tu veux pas m'acheter un bol de nouilles, Jean ?» Jean soupira. Les HR n'avaient plus d'identité informatique, et sans II, ils n'avaient plus aucune existence légale. Il ne pouvait ni travailler, ni voyager, ni louer, ni recevoir, ni dépenser de crédit. Être en dehors du monde virtuel, c'était être à la marge du monde réel. Il n'y avait rien à faire contre ça. « Si tu veux. » Le HR se releva avec difficulté. « Tu n'as pas pu faire soigner ta jambe ?»« Le toubib a dit que je n'avais pas de numéro. » »« Et il ne t'a rien donné ?»« Non, Jean, tout le monde n'est pas un bon samaritain comme toi. » »« Si tu le dis. » Ils se dirigèrent d'un commun accord vers le stand de restauration chinoise, tenu par un couple de vieillards dont l'origine ethnique s'était noyée dans des générations de métissage. La vieille Xia cuisinait et se tenait toujours devant son wok géant. Le vieux prétendait s'appeler Chou et il s'occupait des clients. « Deux bols de nouilles » proposa-t-il d'une voix fatiguée. « S'il te plaît, Chou. »« À quand la retraite ?» plaisanta Mito. Ils rirent tous les trois, dans la fraîcheur grandissante de la nuit. La retraite avait été abrogée plus de 40 ans auparavant. Chou et Xia, si tels étaient bien leurs noms, mourraient devant leur wok en servant des bols de nouilles. Mito payait toujours son repas de sa bonne humeur. Rien ne pouvait l'empêcher de se réjouir de l'imminence d'un repas chaud. C'était la triste contrepartie d'une vie de privation. Jean, lui, ne se réjouissait plus de grand-chose. « Quand tu seras trop fatigué, vieux, » dit Mito, « demande-moi mon aide, tu me paieras avec des bols de nouilles. » Chaud regarda Mito avec méfiance. « Je ne veux pas d'ennui, moi. »« Personne ne veut d'ennui, Chaud, » dit Jean. « Ça manque de sel, » remarqua Mito. « La vie manque de sel, » poursuivit Jean. « Je t'ai promis un jour que je te raconterai comment je suis devenue HR. »« Ah, pas ce soir, Mito, pas ce soir, » souffla Jean. « J'ai froid et je suis fatiguée. » Mito ne se vexa pas et se retourna s'asseoir dans la rue, à côté des autres silhouettes immobiles. « Je te revaudrai ça, Jean, » cria-t-il de loin. « T'inquiète, c'est sur ton ardoise. » Jean ne termina pas son bol et fit machinalement passer son RV devant celui de Chaud. Un petit bip imperceptible scella la transaction, et il salua silencieusement le vieux, qui, lui semblait-il, commençait à donner des signes de sénilité. Sa main gauche était agitée de tremblements involontaires, et son œil se figeait parfois comme une graisse refroidie. L'immeuble de Jean était aseptisé et d'une neutralité désespérante. Le jeune homme ne rencontra personne en prenant l'ascenseur, qui monta les 13 étages sans un bruit. Son RV vibra à peine lorsque la clé électronique qu'il contenait procéda automatiquement à l'ouverture de la serrure. Enfin, il était chez lui. 40 mètres carrés privatifs, qui représentaient une surface personnelle légèrement au-dessus de la moyenne. L'appartement, comme un automate sortant de l'ombre pour exécuter son numéro, s'alluma, bourdonna, s'automodifia, sans qu'il eût rien à faire. Les lumières, les volets, les portes, les radiateurs, la musique d'ambiance... Tout s'était déclenché à l'instant même où le RV avait déverrouillé la serrure. Jean retira ses chaussures et s'installa dans le salon de vision. Il brancha son RV sur l'écran 3D et consulta le menu qui défilait, lumineux et impalpable, à 1 mètre de son canapé. Le RV pouvait se connecter sur un écran traditionnel, sur écran 3D, en audio uniquement ou en immersion virtuelle, avec un casque qui donnait des maux de tête et parfois des vomissements au bout de quelques heures. L'écran 3D était ce que préférait Jean. On n'était pas physiquement relié à quoi que ce soit, et tout paraissait facile et fluide, sans douleur. Le réseau contenait presque tout ce à quoi Jean tenait. Son appartement, en fait, était vide et presque impersonnel. Jean pensait à sa mère. Il y avait des soirs comme celui-ci où elle lui manquait particulièrement. Sa rémanence dans le réseau était assez bien réussie. Il pouvait converser avec elle, sous forme de personne virtuelle à son effigie, sur des sujets familiers, presque comme si elle était encore là. Elle lui répondait avec les mots qu'elle avait l'habitude d'employer, l'accueillait avec son sourire, affichait des idées qui lui étaient propres. Mais c'était une illusion, il le savait, et il préféra encore s'immerger dans ses souvenirs 3D. Il choisit celui qu'ils avaient créé ensemble pour son 12e anniversaire. Il utilisa le casque d'immersion virtuelle pour que la plongée soit complète. Il fut alors à même de tout éprouver. Les parfums du jasmin, le bruit de la cascade et des oiseaux, le souffle du vent tiède. Le souvenir était long, il durait plus d'une minute. Sa mère lui tenait la main et il pouvait sentir ses doigts noueux dans les siens. Elle le regardait et lui souriait, puis elle disait « N'est-ce pas un moment parfait, Jean ?» Il lui lâchait la main et se mettait à courir dans le parc. Il ressentait son accélération cardiaque et la jeunesse qui débordait de ses veines. Puis le souvenir prit fin. Les bruits, les parfums, les sensations corporelles s'arrêtèrent nettes, comme une lumière qu'on éteint. Il ressentit une vague nausée et coupa l'immersion virtuelle. Il regarda ses messages personnels, professionnels, publicitaires, d'un œil distrait. Il ouvrit le fichier de ses poèmes et lança en même temps une recherche sur Titania. Il tomba presque aussitôt sur un compte OMS, Oh Myself, le dernier réseau social à la mode. Un peu réticent, mais curieux, il explora la porte de Titania, qui était une sorte de page d'accueil. Oh Myself proposait à ses abonnés deux fonctionnalités en parallèle. Le palais, qui correspondait à une base de données permanente, et le flux direct, qui tenait presque de la chaîne de télévision du siècle passé. Chacun pouvait ainsi enrichir son palais de données diverses, archives textuelles, audio, vidéo et même 3D, rémanences et autres programmes intelligents. Le palais, inspiré des jeux du XXIe siècle, était un espace virtuel que l'abonné construisait pour mettre en valeur ses données et qu'on pouvait visiter comme un véritable musée. La conception des palais avait connu un engouement sans pareil ces dernières années, et les architectures virtuelles les plus créatives avaient vu le jour sous l'effet de ce désir toujours plus fort, toujours plus insatiable, de se mettre en scène et de s'offrir au monde. On appelait cela l'extimité. Celui de Titania, pour autant qu'il pût en juger, datait d'à peine 2 ans, mais il comptait plusieurs dizaines de milliers de courtisans, des visiteurs, fans et autres sympathisants que l'on pouvait voir se promener ici ou là et consulter diverses archives. Il était possible de dialoguer avec eux, de manière privée ou publique, de manière évanescente ou figée, c'est-à-dire avec ou sans enregistrement de la conversation. Jean fit un tour rapide des lieux, avant de comprendre qu'il lui faudrait des heures pour réaliser une visite digne de ce nom. Le palais avait l'apparence d'une sorte de cathédrale de glace, avec des jeux de lumière et des sculptures étranges. Chaque surface, chaque recoin, était occupé par des photographies, des tableaux, des vidéos, des hologrammes qu'elle aimait, et la cathédrale entière était l'écrin fabuleux de ses propres archives, parmi lesquels une foule d'avatars déambulait. Jean refusa la proposition de conversation d'une personne dont l'avatar était une petite fille à tête de chat. De tels monstres ne se voyaient pas encore dans le monde réel, mais ça ne saurait tarder. Le réseau était une sorte de reflet de l'avenir, et cela l'inquiétait vaguement. Il quitta le palais pour jeter un œil au flux virtuel. Là, Titania, en temps réel, postait des photos, des vidéos, des expériences 3D ou des textes. Il vérifia qu'elle n'avait rien publié sur lui, puis, un peu déçu que ce ne fût pas le cas, il se déconnecta d'OMS. Alors, attiré par l'icône à l'effigie de sa mère, il l'activa presque sans y penser. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda la voix de sa mère, parfaitement synthétisée. « J'ai rencontré une drôle de fille pendant que j'écrivais. Quel genre de fille ?»« Le genre qui t'amuserait, je crois. Totalement modifiée, mais vivante, inattendue. Comment s'appelle-t-elle »« Titania. La reine des fées de Shakespeare. » C'est ce que je lui ai fait remarquer. « As-tu écrit un poème sur elle ?» Il savait que s'il ne changeait pas lui-même de sujet, la rémanence poserait des questions en boucle, jusqu'à épuisement. Il n'en avait pas envie. « Que penses-tu de l'identitemple ? » demanda-t-il pour changer de conversation. L'intelligence artificielle eut un petit délai avant de répondre. « C'est sans doute le lieu le plus corrupteur de toute la capitale. Quoi de plus séduisant que de se créer soi-même, être à la fois Pygmalion et Galatée, Dieu et Adam ? Et pourtant, sans arriver à bien dire pourquoi, je pense que c'est mal. C'est une mode, maman, rien de plus. Une mode qui prend une proportion inquiétante, Jean. Les gens se recentrent sur eux. Il coupa la fausse conversation, vidé et un peu honteux d'avoir prononcé le mot maman. Combien de personnes dans l'immeuble étaient en ce moment même en train de parler toutes seules ? À des psys virtuels, des prostituées virtuelles, des morts virtuelles. Il aurait mieux fait d'écouter l'histoire de Mytho, même si ces histoires n'étaient jamais vraies.